so to speak. La parabole du bon samaritain s'est connue dans le monde entier. Chez tous les chrétiens, puis même chez les non-chrétiens. Ça fait partie des grands classiques de l'humanité. Ça fait presque partie de la culture. Et hélas, ce qui est culturel, souvent, perd de la force en esprit. Et on oublie le sens réel. Et je voudrais attirer votre attention sur le sens réel de cette parabole, que tout le monde connaît par cœur, bien sûr. Mais on ne prend pas assez conscience du fait qu'elle nous concerne tous les êtres humains, d'une façon très précise. C'est une parabole terrible. Le Christ est d'une audace folle. Et il va s'attirer la haine du clergé de son peuple. Parce qu'il va mettre en cause le clergé de son peuple en parlant du prêtre et du diacre. Et lui-même, le rabbi Yeshua, le Messie, il va se mettre dans la peau d'un hérétique, un samaritain est un hérétique. C'est une parabole très violente. C'est une des plus violentes que le Christ ait dites. Ça mérite de s'y attarder un peu. Et aussi, elle est un modèle de pédagogie. J'essaierai d'en dire deux mots. Alors, il faut se rappeler du contexte. Le Seigneur est, on va dire, au début de sa mission terrestre. Il a choisi 70 disciples qui le relaient dans son enseignement et qui vont en avance devant lui dans les villages et les villes et partout. Ils vont préparer, un peu comme faisait Jean-Baptiste. Et l'étonnant est le Christ, le rabbi Yeshua de Nazareth, qui habite Capharnaüm, il devient très très célèbre. Et l'étonnant de la religion juive officielle commence à s'inquiéter. Commence à se dire, oh là là, c'est dangereux pour nous. Toutes les foules vont vers lui. Qu'est-ce qui s'en passe? Ils sont de plus en plus inquiets pour leur pouvoir, pour les honneurs qui leur sont rendus, pour les avantages matériels. Vous savez, les puissants ont toujours peur. Ils ont toujours peur de perdre quelque chose. Ils sont toujours craintifs, toujours trouillards, les puissants. Que ce soit les puissants du monde ou ceux de l'Église, ils ont toujours peur. Et souvent, ils utilisent la langue de bois. Ils ne disent pas la vérité. Et comme les gens, les puissants de l'époque s'inquiètent, ils vont attaquer le Christ. Alors, il y a deux groupes très importants en Israël. Il y a les Sadducéens. Ce sont eux qui tiennent le temple et la prêtrise. Les Sadducéens qui ne croient pas dans la résurrection des morts. Alors que c'est expressément dit dans la Bible. Et le clan des pharisiens. Les pharisiens, ils sont très, très, très pieux. Très humble. Ils jeûnent tout le temps, ils prient, ils font plein de choses formidables. Mais le Christ va les reprendre avec force, parce qu'ils ont une pratique extérieure de la religion. Ils n'ont pas en esprit. C'est eux qui vont le condamner à mort, le Christ. Alors il a fermé la bouche des Sadducéens, à propos de la femme qui avait sept maris, puis les pharisiens, ils passent à l'attaque. Ils ont vu qu'il avait bien répondu aux Sadducéens. Ils se disent, c'est notre tour. Et il y a un docteur de la loi, qui est un pharisien, bien sûr. Alors, cette parabole n'est racontée que par Saint Luc, mais le contexte, on le trouve aussi chez Saint Matthieu et Saint Marc. C'est pour ça que je vous donne tous ces éléments-là. Un docteur de la loi, quelqu'un de très important, c'est un rabbi, un docteur de la loi. Quand on fait l'office à la synagogue, on lit la loi et les prophètes, on chante des psaumes, puis après il y a un rabbi qui explique la loi. C'est ce que fait le Seigneur quand il va dans la synagogue. Donc, c'est pas n'importe qui cet homme-là. Quelqu'un qui connaît la loi sur le bout des doigts, qui la médite depuis 30 ans. Un rabbi. Il l'interroge. Et il pose une très très bonne question. Maître, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur, vous voyez la pédagogie du Christ. Là, il ne répond pas. Il dit, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Il y a une autre traduction qui est, comment lis-tu? C'est-à-dire, qu'est-ce que ton intelligence te fait découvrir dans la loi? Et le rabbi répond, très bien. Parfait. Il donne les deux plus grands commandements qui ne font qu'un. C'est le Seigneur lui-même qui enseigne ça. Il répond très très bien. Il ne sait pas n'importe qui, les rabbis. Mais comme il ne met pas en pratique cela, il le sait, mais il pratique, l'Évangile nous dit qu'il va essayer de se justifier. Et deuxième bonne question. Et qui est mon prochain? Vous savez, oh, c'est beau tout ça, tout ce qui est dans l'Évangile, tout ça c'est beau la Bible, mais comment voulez-vous qu'on fasse? Comment faire? Ah, l'astuce. Je ne peux pas le faire parce que c'est quasiment impossible. Et qui est mon prochain? Ça c'est une très très bonne question. Parce que vous avez vu que dans le plus grand commandement, on dit d'abord, t'aimeras Dieu totalement. De tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit, c'est totalement. Ton prochain comme toi-même, ce n'est pas totalement. C'est ton prochain qui est l'image de Dieu, à la mesure de toi l'image de Dieu. C'est pas tout à fait pareil. Mais aimer Dieu totalement, qui va vérifier? Personne. Il n'y a que Dieu qui puisse dire. C'est invérifiable. Mais le prochain, il existe, il est devant moi, il est visible. Et là, on a une mesure de notre amour de Dieu. C'est ça qu'il faut bien voir. La question, elle est judicieuse, elle est importante, elle est difficile. C'est pour quelle va être la mesure de l'amour que j'ai pour Dieu? Si je ne suis pas capable d'aimer l'image de Dieu que mon prochain, je ne vois pas comment je peux aimer le prototype. Alors, voilà un peu le cadre. Alors, le Seigneur, il va raconter une histoire. Il raconte la fameuse parabole. Alors, comment il fait? J'ai vu la pédagogie. Il a d'abord fait faire une bonne réponse par le rabbi, et après, il raconte une parabole. La parabole, elle est sanglante. D'abord, elle part. Alors, les paraboles du Christ, en général, en 10 lignes ou en 10 mots, elles résument toute l'histoire de l'humanité et tout le destin spirituel de l'humanité. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Aucun être humain ne pouvait, ne peut, ne pourra jamais faire ça. Il n'y a que le Christ. Alors, il part de la chute. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Tombe aux mains des brigands. Bon, moi, j'ai eu la chance d'aller dans ces lieux. Jérusalem et Jéricho, c'est vertigineux. Il y a une dénivellation de 1000 mètres sur 28 km. Ah, c'est comme une forteresse, Jérusalem. Jéricho, c'est en dessous du niveau de la mer. La mer morte est à côté. Ça, évidemment, c'est le symbole de la chute de l'homme. Il descend de Jérusalem, qui est la proximité avec Dieu, qui en fait est le paradis. Jérusalem, c'est l'image de Jérusalem céleste. Et puis il va tomber en dessous du niveau de la mer, dans les marécages. C'est la chute de l'homme. Et quand l'homme tombe du haut du ciel et qu'il arrive dans les marécages, il rencontre qui? Des brigands, les démons. L'homme se trouve en compagnie des démons. Et les démons vont essayer de défigurer l'homme parce qu'ils haïssent le fait que l'homme soit l'image de Dieu. Ils ont une haine absolue de cela. Et donc ils vont attaquer l'homme, le salir, le souiller, le battre, et même essayer de tuer, parce qu'ils haïssent l'homme, l'image de Dieu. Donc ça, on part de la chute de l'homme. Vous avez vu en 2 mots comment le Seigneur nous brosse un tableau saisissant, en 2 phrases. L'homme qui est demi-mort, demi-vivant, c'est nous. C'est chacun d'entre nous, c'est nous tous, c'est moi, c'est vous. Vous avez remarqué que nous sommes effectivement, spirituellement, demi-morts, demi-vivants. On a des éléments en nous de vie, des éléments de mort. On porte les deux choses. Et c'est une chose qui est très très difficile. L'homme déchu est demi-mort, demi-vivant. Il y a 3 types de personnages qui vont passer. Il y a d'abord les 2 tenants de la religion officielle. Le sacrificateur, ça correspondrait à un prêtre. Le lévite, ça correspondrait à un diacre. C'est ceux qui aident les prêtres dans le temple pour les sacrifices. Donc il y a d'abord 2 tenants de la religion officielle, et puis il y a un hérétique, il y a un samaritain. On dit un mot de chaque groupe de personnages. L'Évangile nous dit avec une grande précision que le sacrificateur, le prêtre, il passe là par hasard. Il n'a rien à faire là. Sa place est à Jérusalem dans le temple. Offrir à Dieu les offrandes du peuple. Il n'a rien à faire là. Ça, il passe par hasard. Il ne devrait pas être là. En tout cas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il descend. Parce qu'il va quand même vers Jéricho. Ce n'est pas sa place. Il voit ce pauvre type qui est longé, qui est en train de mourir quand même. Vous dites demi-mort, demi-vivant, attaqué par les brigands. Si personne ne vient me secourir, vous mourrez alors qu'il vient. Il fait comme s'il n'avait pas vu. La traduction que vous avez entendue n'est pas bonne du tout. La vraie traduction, c'est il passa outre. Il s'en fiche. C'est pas son truc. Bien. Arrive le Lévite, il fait pareil. Parce aussi par hasard, il n'a rien à faire là. Sa place est dans le temple. Il fait pareil. Tel serviteur, tel maître. Il s'en fiche. Arrive un Samaritain. Quand on dit un juif, un Samaritain, ça lui donne des boutons. Il a vite hurlé. Les Samaritains étaient haïs par les Juifs. C'était des hérétiques. C'est des gens qui sont des descendants des colons assyriens du 8e siècle, qui ont colonisé le royaume du Nord, si vous voulez, qui était très, très, très mélangé, où il y avait un peu d'idolâtrie, un petit peu de ceci, un petit peu de tout. Et quand on a reconstruit le temple avec Esdras, vers 400, quand Esdras a fixé la loi, les Samaritains ont été exclus de la reconstruction du temple, parce qu'on estimait qu'ils étaient douteux. Et les Samaritains ne reconnaissent que la loi, la Torah, ils ne reconnaissent pas les prophètes. Alors ça, c'est important de savoir cela. Ça veut dire que le Samaritain, lui, il ne peut pas savoir qui est le Messie. Il n'a que la Torah. Ce sont les prophètes qui annoncent Jésus. C'est le prophète Isaïe. Voilà, on commence ce temps de préparation. Et les Juifs pieux haïssaient tellement les Samaritains qu'on ne peut pas toucher un Samaritain. On ne peut pas lui parler, on ne peut pas manger avec lui. C'est comme à l'époque. Il faut se rendre compte que c'est ça, un Samaritain. Sinon, on ne comprend pas la force de la parabole. Donc, quelqu'un qui pour un Juif est une horreur, un hérétique. Alors lui, il ne passe pas par hasard. C'est intéressant. Lui, il est en voyage, c'est-à-dire qu'il est en recherche. Et les deux autres sont installés dans la certitude, mais lui, il est en recherche. Il est en voyage. C'est le voyage de sa vie. C'est son voyage spirituel, son itinéraire spirituel. Et la phrase la plus importante de la parabole, c'est une phrase qui dit plusieurs fois dans l'évangile à propos du Christ. Il voit ce pauvre homme mourant, et l'évangile nous dit « ému de compassion ». Vous vous souvenez plusieurs fois dans l'évangile, quand le Christ voit des gens malheureux, on dit qu'il est ému de compassion. C'est-à-dire, son cœur tremble de communion avec la souffrance de l'autre. La compassion, le vrai sens étymologique en latin, c'est pareil en grec, c'est souffrir avec, c'est porter la souffrance de quelqu'un. C'est communier à la souffrance de quelqu'un, avoir une émotion, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement cérébral, ce n'est pas seulement tiens, oui, j'ai une pensée, tiens, oui, c'est pas mal la compassion. Non, mon cœur souffre, je pleure, j'ai une émotion, je participe. Mon être intérieur communie à cette souffrance et je souffre avec lui, ému de compassion. Alors lui, il ne se pose pas de questions, il va tout de suite. Quelqu'un qui est en train de mourir, il va lui porter secours. Ça nous paraît simple. Ce n'est pas si simple que cela. Il y va tout de suite. Et le Samaritain, il va prendre soin de l'homme qui est en train de mourir et il verse de lui, ça c'est très très beau, de l'huile et du vin. L'huile, symbole de l'économie de l'esprit, et le vin, symbole de l'économie du Christ. Tout à l'heure, j'ai fait une onction en Marseille avec des huiles saintes que nous bénissons en vigile de jeudi saint. C'est de l'huile et du vin mélangé. Symbole de l'économie des deux mains du Père, le Fils et l'Esprit. Le Père étant la source qui nous envoie et le Fils et l'Esprit. Il verse de l'huile et du vin, il le met sur sa monture parce que l'homme ne peut pas marcher. Et comme il ne peut pas rester là, il ne peut pas rester là puisque c'est l'image du Christ. Il va rentrer dans le ciel. Bien sûr, il va l'emmener dans une hôtellerie. Et les pères de l'Église ont souvent dit que l'hôtellerie, c'est l'image de l'Église. Et il tire deux deniers, donc ça a une valeur, et les deux deniers, c'est l'Évangile et les sacrements. C'est ça le trésor de l'Église. Au fond, c'est la liturgie. L'Évangile, c'est la première partie de la liturgie, après, c'est la grande Eucharistie. L'Évangile, il dit à l'hôtelier, prends soin de lui. À mon retour, je te rendrai tout ce que tu as dépensé. Et c'est quand je vais revenir en gloire et que je vais... Moi, jugé tous, je te rendrai cela, parce que tu seras avec moi dans le royaume, donc je te rendrai ce que tu auras dépensé. C'est, je n'ai pas le temps, moi, de rester là, mais je me confie à l'Église. C'est magnifique, magnifique parabole. Et donc,
la parabole, elle pourrait s'achever comme ça. Mais le Seigneur fait preuve d'une pédagogie merveilleuse. Plutôt que de dire la morale de la parabole, il va le faire dire au rabbi. Il dit, lequel, à ton avis, s'est montré le prochain de celui qui était demi-mort, demi-vivant? Et le rabbi, il dit, fait une belle réponse qui est évidente, mais il utilise un terme qui est très beau, c'est un terme qu'on attribue à Dieu, il dit, c'est celui qui a fait miséricorde à l'autre. Mais celui qui est miséricordieux, c'est Dieu. Et donc, au fond, le Christ fait dire au rabbi, c'est celui qui a ressemblé à Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Le prochain, c'est celui qui a ressemblé à Dieu. Et c'est une chose tout à fait extraordinaire. Le Seigneur nous enseigne quelque chose de tout à fait remarquable. Le prochain, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas un en soi. Ce n'est pas géographique. On est prochain de l'autre en fonction de son comportement. On ne naît pas prochain. On devient prochain parce qu'on a pitié, parce qu'on est miséricordieux. On devient prochain de l'autre parce qu'on se conduit comme Dieu. C'est une révélation tout à fait extraordinaire au plan spirituel. C'est chacun de nous la liberté d'être le prochain de l'autre ou de ne pas l'être, de faire comme le clergé officiel qui ne s'est pas montré le prochain et qui n'est pas ressemblé à Dieu. Mais le Christ a souvent été très sévère pour les prêtres de son peuple. Il a dit souvent, faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Il a été cette chose assez douloureuse. La pédagogie du Christ est tout à fait extraordinaire et il nous enseigne un renversement des valeurs. C'est mon comportement qui fait que je deviens le prochain des autres ou pas. Alors, vous comprenez aisément pourquoi cette parabole a rempli de colère les Juifs. Car il met en cause la religion officielle, les tenants de la religion officielle, puis lui-même, le Messie, c'est quand même très très audacieux. Lui qui est la vérité, c'est même un rapport de la vérité. Parce que le Seigneur a voulu provoquer un choc. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? C'est ce qu'il ne cessera pas de dire pendant 3 ans de sa vie sur terre. Il nous apprend à faire non pas des actes religieux, accomplir la loi, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire, etc. Vous savez, toute la liste des choses qui étaient à faire. Non pas accomplir des actes religieux, mais à nous comporter comme Dieu. Non pas appliquer à la lettre ce que nous dit le Seigneur, mais en esprit. Mais je vous assure que 2000 ans après, on peut redire les mêmes choses. Parce que les ecclésiastiques, que Dieu me pardonne, j'en suis un. Les ecclésiastiques de toutes les confessions chrétiennes, de nos jours, 2000 ans après, sont souvent beaucoup plus formalistes que nous apprenons à faire en esprit. Et souvent se comportent comme l'antique clergé juif. Et rien n'est jamais acquis dans la religion chrétienne. On ne peut pas se dire, ah ça y est, j'ai réussi à faire ça. Ça se pose pour toutes les générations chrétiennes jusqu'au retour du Christ en gloire. Ça dépend de nous. Le Christ a jeté la semence. Mais ça dépend de moi de me comporter comme Dieu ou de dire, je m'en fiche. Mais c'est ça, la porte du royaume. Le Christ soit la gloire pour les siècles et les siècles. Amen.